Chapitre 42. Charcot mit plus d'une heure à sortir de Paris. Après des ralentissements à répétition, il s'engageait enfin sur l'autoroute A1, direction plein nord, dans des conditions météo compliquées. Comme annoncé, les chutes de neige s'intensifiaient au fil de sa progression. À 16h30, il faisait déjà noir. Les essuie-glaces balayaient à toute vitesse le pare-brise fouetté par les flocons. Sur le côté et entre les voies, la poudreuse commençait à s'accrocher. Stressé, Franck enclencha une cassette de Dolly Parton et se laissa envoûter par le premier titre, Jolene. S'il savait au 36, on le prendrait pour le pire des ringards. Au bout d'une heure et demie, de nouveaux bouchons. Il se retrouva cette fois à l'arrêt au niveau de l'embranchement de l'A29, à la hauteur d'Amiens. En face, les véhicules circulaient au compte-gouttes, eux aussi. Le passage d'une ambulance et d'une voiture de police sur la bande d'arrêt d'urgence de son côté confirma ce qu'il craignait. Un accident devait être à l'origine de ce foutoir. « Eh merde » grogna-t-il, en claquant ses paumes sur le volant. L'heure tournait et il se ferait crucifier par sa mère s'il manquait le début des festivités. Mais il n'eut pas d'autre choix que de prendre son mal en patience, et après un temps qui lui parut interminable, il put enfin rouler au pas. Les gyrophares de nombreux véhicules de secours crevèrent la tempête. Des collègues, armés de balises luminescentes, rabattaient les usagers vers la gauche. Un camion arrivé en sens inverse avait traversé le terre-plein central. Il gisait sur les deux voies de droite. Sous les roues de la cabine, Franck devina la carcasse d'une voiture. Des valises éventrées et des paires de skis étaient éparpillées au sol. Des vêtements volaient dans le vent. D'autres, dont un pull vert, s'étaient accrochés aux arêtes de la rambarde. Un pull vert. Un souvenir datant de 20 ans vint le percuter de plein fouet. Il peina à contrôler les tremblements qui agitaient ses mains comme autrefois. À l'aide de grosses pinces hydrauliques et de scies électriques, des hommes en uniforme s'acharnaient sur l'habitacle en lambeaux. Comme tout le monde, Franck ne put s'empêcher d'observer. Un amas de chair et d'os. Des silhouettes désarticulées, compressées à l'avant et à l'arrière. Une famille complète anéantie. L'horreur à l'état pur. « Elle est partout, » songea-t-il. « Même ici, même maintenant, si près du réveillon. Elle frappe encore et encore. L'horreur. » Fichu destin. Qu'avaient pu faire ces pauvres gens face aux mastodontes brisant toutes les barrières pour se précipiter vers leur véhicule? Pourquoi eux? Pourquoi aujourd'hui, à cette minute? Aucune règle avec lui. Il n'a aucune pitié. Il n'avait eu aucune pitié non plus à l'époque. Franck le détestait. 30 mètres plus loin, il distingua un brancard qu'on embarquait dans une des ambulances, les secouristes qui se penchaient sur un corps. Sans doute le chauffeur du camion, lui, le responsable, allait vivre. Et ce fut à ce moment précis, dans la violence de cet épouvantable tableau, que son esprit se connecta à une image. Celle du médecin incliné au-dessus de Delphine Escrémieux, dans l'ambulance à Saclay, juste avant qu'on ne l'emmène à l'hôpital. Celle surtout de cette paire de ciseaux qu'il avait utilisée pour couper la corde de la toile servant de vêtement à la jeune femme. Une paire de ciseaux à lame courbe. Franck se rappelait la façon dont les habits des victimes avaient été découpés dans l'affaire des disparus. Il avait vu les photos, à la verticale, le long du buste, comme le faisaient les urgentistes lors de leurs interventions. Tel qu'ils allaient le faire maintenant pour secourir cet homme. Charcot en eut subitement la quasi-certitude. Le légiste s'était trompé. L'arme du crime n'était pas un opinel à lame courbe, mais des ciseaux d'urgentiste, dont on se serait servi à la manière d'un couteau pour poignarder 3 innocentes. Les deux instruments avaient peut-être des lames identiques ou des caractéristiques suffisamment proches pour que cela échappe à l'œil du spécialiste. Sa piste se confirmait. Le monstre qui avait kidnappé, violé et mutilé Corinne, France et Isabelle était un homme dont le métier était de sauver des vies. Chamboulé, Franck abandonna l'accident et les clignotements bleutés dans son rétroviseur. Et il s'enfonça dans les rideaux de flocons.